Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Et Cavado avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30. Bonsoir à tous, voici les titres. 12 personnes tuées dans une fusillade dans un bar près de Los Angeles, ici aux États-Unis. Résultat au compte-gouttes à Madagascar, André Rajoelina et Marc Ravalomanana au coude à coude après le premier tour de l'élection présidentielle. Au Burkina Faso, un gendarme blessé lors d'une nouvelle attaque dans le nord du pays. En Égypte, 66 djihadistes présumés ont été condamnés à des peines de prison, dont 18 ans à perpétuité. Ne manquez pas les informations sur l'actualité économique. Au Cameroun, la crise anglophone fait chuter les exportations de bananes à près de 13 000 tonnes contre près de 43 000 tonnes en 2017. Dans la page sportive, le sélectionneur Ibrahim Camara fait confiance à 4 nouveaux joueurs chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Tout d'abord, à Madagascar, deux anciens présidents sont au coude à coude après le premier tour de l'élection présidentielle, selon des résultats très partiels publiés ce jeudi par la commission électorale. Quant au chef de l'État sortant, qui arrive pour l'heure en troisième position, il a dénoncé de nombreuses irrégularités et prévenu qu'il ne laisserait pas la population se faire dérober son vote. Le point avec Jacques Aristide.
Henri Rajoenar Mampian, qui a été au pouvoir de 2014 à septembre de cette année, affirme que des anomalies techniques ont été détectées. Il évoque notamment un fichier électoral non valide, la présence de bulletins déjà précochés, des retards dans la mise en place des équipements et des installations de vote, ou encore des intimidations. Tout porte à croire, dit-il, que le vote de la population malgache a été victime de ces détournements au lendemain du scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Le président sortant demande aux institutions compétentes de ne laisser passer aucune tentative de manipulation. D'après des résultats très partiels et provisoires, portant sur 291 des 24 852 bureaux de vote, R. Rajoenar Mampian a obtenu 3,29% des voix. Il arrive en troisième position, très loin derrière deux autres ex-présidents, André Rajoelina, accrédité pour l'heure de 45,07%, et Marc Ravalomanana, 40,30%. Les trois hommes étaient donnés favoris du scrutin, destinés à consolider la démocratie dans ce pays, coutumier des crises politiques et post-électorales.
En Guinée, deux hommes ont été tués mercredi soir par des tirs de militaires guinéens dans une banlieue de Conakry, secouée dans la journée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. L'opposition a appelé à 5 jours de deuil national. Les États-Unis ont annoncé mercredi une aide de 550 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir le Sénégal et l'aider à relever le défi de la hausse des besoins en électricité dans ce pays en développement rapide. Au Burkina Faso, un gendarme a été blessé dans l'attaque d'une brigade de gendarmerie dans le nord du pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Des hommes armés ont attaqué tôt ce matin la gendarmerie de Namsidian à 135 km de Ouagadougou. L'attaque a duré une vingtaine de minutes avant d'être repoussée par les forces de sécurité. C'est une première en Namsidian à 35 km de Djibo, dont la gendarmerie a déjà été attaquée à la mi-octobre. Lundi, deux militaires ont été tués et 3 blessés à Nassumbu, toujours dans le nord, lorsque leur véhicule a sauté sur un engin artisanal. D'abord localisé dans le nord, les attaques se sont étendues à d'autres localités, surtout dans l'est du pays. Ouagadougou a été frappé à 3 reprises, dont la dernière fois en mars. Ces attaques ont fait près de 60 morts rien que dans la capitale. Selon un bilan officiel, les attaques attribuées aux islamistes ont fait 118 morts ces 3 dernières années, soit 70 civils et 48 membres des services de sécurité.
Des sages du parti présidentiel du Gabon, le Parti démocratique gabonais, ont appelé le gouvernement à communiquer judicieusement pour rassurer l'opinion sur l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre en Arabie Saoudite. Par ailleurs, ils indiquent que cette guerre de communication compromet la relance durable de l'économie, susceptible de créer des emplois et garantir le développement. Mimi Mefo, célèbre journaliste anglophone du Cameroun, a été écrouée dans la nuit de mercredi à jeudi à Douala, après avoir été inculpée par un tribunal militaire pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon son avocate, elle devrait être jugée par le tribunal militaire de Douala dès lundi. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Dans le centre de la République démocratique du Congo, 17 membres d'un groupe armé ont été tués au Kasaï, dans une opération militaire contre des milices se réclamant du chef rebelle Nzapu, tué en 2016. En Tanzanie, deux membres d'une organisation américaine pour la protection des journalistes ont été interpellés mercredi soir à leur hôtel de Dar es Salaam et relâchés jeudi matin, a indiqué une source officielle sud-africaine. Le gouvernement tanzanien se fait très discret sur cette affaire, son porte-parole affirmant ne pas savoir pourquoi les deux membres du comité pour la protection des journalistes avaient été arrêtés après avoir été autorisés à entrer dans le pays. Le Soudan s'est félicité de la volonté affichée par les États-Unis d'entamer des négociations visant au retrait de Khartoum de la liste noire des pays soutenant le terrorisme. La présence du Soudan sur cette liste rend les banques et institutions internationales réticentes à garantir les transactions commerciales avec ce pays. Washington avait placé le Soudan sur cette liste noire en 1993 en l'accusant d'appuyer des groupes extrémistes islamique. En Égypte, 66 djihadistes présumés ont été condamnés à des peines de prison, dont 18 à perpétuité. Ils étaient accusés d'avoir fondé une cellule en Haute-Égypte qui prête allégeance au groupe État islamique. Le Point avec Raïssa Girondin.
Les 65 accusés sont condamnés pour fondation d'une cellule terroriste en Haute-Égypte qui a prêté allégeance à Abu Bakr el-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. 18 ont écopé de la prison à perpétuité, équivalent à 25 ans en Égypte. 41 personnes ont été condamnées à 15 ans de prison ferme. 6 mineurs ont écopé 5 ans d'emprisonnement. 2 personnes ont été acquittées. Le dirigeant de ce groupuscule, Mostafa Hamed Abdelal, surnommé l'émir, et ses partisans ont été déférés devant la justice en mai 2017. Seuls 47 prévenus étaient présents à l'audience. Ces condamnations peuvent faire l'objet d'un appel. Ces procès de masse sont régulièrement dénoncés par les organisations de défense des droits de l'homme. En outre, hier mercredi, 8 membres présumés du groupe État islamique dans la province du Sinaï ont été condamnés à mort par un tribunal militaire pour une attaque meurtrière contre l'armée en 2016. En février, le Caire a lancé une vaste opération baptisée Sinaï 2018 pour les déloger. Plus de 450 djihadistes présumés et une trentaine de soldats ont été tués.
Le chef du gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, Fayez al-Sarraz, a appelé la communauté internationale à adopter enfin une vision commune vis-à-vis du dossier libyen à l'occasion de la conférence qui s'ouvrira lundi à Palerme, en Italie. 5 stèles seront inaugurées samedi en France à la mémoire de 949 tirailleurs sénégalais morts pour la France à la suite de maladies après avoir séjourné dans un camp d'hiver dans le sud-ouest du pays pendant la Première Guerre mondiale. Selon les historiens, ces installations auraient accueilli en 1916 à 1917 entre 40 000 et 60 000 tirailleurs sénégalais placés sous l'autorité de l'armée française et originaires de toute l'Afrique occidentale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle fusillade ici aux États-Unis. 13 personnes dont l'assaillant ont trouvé la mort hier soir dans un bar bondé près de Los Angeles dans le sud de la Californie. Le Point avec Abdourahman Dia.
Les autorités n'ont pas précisé à ce stade si l'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre ou s'il s'est suicidé. Le mobile du crime non plus n'est pas connu. Mais les médias américains révèlent qu'il a eu dans le passé des problèmes de santé mentale. Il y a également plusieurs blessés admis dans plusieurs hôpitaux de la région, a indiqué le shérif de ce comté à la périphérie de Los Angeles. C'est une scène horrible, il y a du sang partout, a-t-il confié. Dans un tweet ce matin, le président des États-Unis, Donald Trump, a dit avoir été tenu pleinement informé de la situation en Californie. La police a fait preuve d'un grand courage. Les unités de la police étaient sur place en 3 minutes, a-t-il ajouté. D'ailleurs, un policier a succombé suite à ses blessures. Il y a moins de 2 semaines, une autre fusillade aux États-Unis avait fait 11 morts dans une synagogue de Pittsburgh. Ces attaques relancent à chaque fois le débat sur les armes à feu dans le pays.
La doyenne de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, 85 ans, a été hospitalisée suite à une chute dans son bureau mercredi soir. Ce matin, elle s'est présentée à l'hôpital George Washington. Elle a été diagnostiquée avec 3 côtes fracturées. Les démocrates redoutent une défaillance de Mme Ginsburg qui permettrait au président Donald Trump de la remplacer par un juge conservateur. La pakistanaise Asia Bibi, libérée de prison dans dans la nuit de mercredi à jeudi suite à son acquittement par la Cour suprême se trouve désormais dans un endroit sûr, mais toujours dans le pays. L'avis de Madame Bibi, condamnée à mort pour blasphème en 2010 et acquittée la semaine dernière, est considéré comme en grave danger dans le pays du fait des extrémistes islamistes qui rejettent le verdict de la Cour suprême. Au Proche-Orient, un Palestinien a été tué par des tirs israéliens dans la bande de Gaza, à proximité de la barrière qui sépare Israël de l'enclave palestinienne, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza. L'armée israélienne dit examiner les circonstances autour de ce décès. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, le groupe agro-industriel français Satol annonce un investissement d'environ 33,5 milliards de francs CFA pour l'installation d'une zone industrielle consacrée au manioc à Assomvoué dans le centre du pays. Ce projet inclut la création d'une usine de transformation du manioc d'un coût de 15 milliards de francs CFA et devrait aussi permettre une commercialisation aisée des produits tels que la farine, l'amidon et le bioéthanol. Avec une production estimée à près de 38 000 tonnes de farine et d'amidon de manioc par an, Satol entend également créer 1 360 emplois. Au Cameroun, la crise anglophone fait chuter les exportations de bananes à 13 394 tonnes contre 43 400 tonnes en 2017, selon l'Association camerounaise de la banane. Des séparatistes ont multiplié les exactions dans les plantations de la Cameroun Development Corporation qui exploitent des milliers d'hectares de bananeraies dans le sud-ouest anglophone. Au moins 12 sites de production sur 29 ont été fermés et 10 autres sites tournent au ralenti. Terminons avec la Tanzanie qui ambitionne de produire 50 000 tonnes de thé sur les 5 prochaines années, soit 47% de plus que son niveau actuel de 34 000 tonnes. Cette augmentation de la production devrait passer par une hausse de 30 000 hectares d'ici 2023. Le gouvernement tanzanien veut dynamiser le secteur du thé et accroître sa contribution à l'économie. D'après la Banque africaine de développement, l'agriculture génère 33% du produit intérieur brut et emploie 75% de la main-d'œuvre.
Place à présent à la page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
La CAF a levé le huis clos partiel de Rades.
Battu 3-1 par Al Ahly en finale aller de la Ligue africaine des champions, l'Espérance Tunis pourra compter sur le soutien de l'ensemble de ses supporters demain à Rades pour le match retour. La CAF a en effet répondu favorablement à la requête des Sang et Or qui réclamait la levée de la suspension frappant l'un de leurs virages pour cette rencontre. L'Espérance sportive de Tunis avait même menacé de boycotter le match en cas de réponse défavorable. Ce sont donc 60 000 supporters qui pousseront Youssef Belaïli et ses hommes.
Quatre nouveaux chez les éléphants de la Côte d'Ivoire.
Oui, le sélectionneur Ibrahim Camara a fait confiance à Souleymane Doumbia de Gracho Père de Zurich, cher Camara du Wydad Athletic Club de Casablanca, Eladj Danté de Lissa de Sassandra et Yakou Meïté de Reading pour le match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre la Guinée à Conakry. Le reste, c'est du classique avec les cadres Serge Aurier, Eric Bailly, Sylvain Bouhou, Séré Dié, Jean-Michel Séry ou encore Max Gradel. On note aussi le retour de Gbamin. Si le Sili National n'a besoin que d'un match nul pour assurer sa qualification, les éléphants doivent l'emporter pour valider dès ce mois leur ticket pour le Cameroun.
Quatrième journée de la Ligue Europa ce soir.
Et oui, Arsenal et Chelsea peuvent se qualifier dès ce soir pour les 16e de finale en cas de succès respectivement contre le Sporting Portugal et le Bate Borisov. En revanche, Marseille, finaliste malheureux de la précédente édition, est au bord de l'élimination. Une défaite chez la Lazio Rome qui l'a corrigé 3-1 à l'aller au stade Vélodrome et ça n'est fini des rêves européens pour les hommes de Rudy Garcia. La Lazio sera qualifiée si elle bat Marseille et que l'Apollon Limassol, dans le même temps, ne bat pas Francfort.
Le PSG dénonce une initiative personnelle dans l'affaire du fichage ethnique.
Le club parisien a confirmé que des formulaires avec des contenus illégaux ont été utilisés entre 2013 et 2018 par la cellule de recrutement du centre de formation. Le PSG soutient toutefois que cela est une initiative personnelle du responsable du département de recrutement. Sous les catégories français, maghrébins, antillais ou africains, des recruteurs du PSG ont fiché ethniquement pendant des années des jeunes joueurs scrutés par le club selon un nouveau dossier des Footleaks relayé en France par Mediapart.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours avec vous, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour. Après 25 ans d'exil, Achek Ibn Oumar, ancien chef de la diplomatie tchadienne, passé à l'opposition armée, a regagné la légalité. C'est une conséquence de l'ordonnance du 31 mai portant amnistie générale des atteintes à l'intégrité de l'État, signée par le président Idriss Déby. Les associations de défense des droits humains et l'opposition dénoncent une application sélective de cette amnistie. Notre correspondant à N'Djamena, André Komandjingar, nous en dit plus.
Ancien cadre du Frelinga, Front de Libération Nationale du Tchad, le désormais ex-rebelle Achek Ibn Oumar fut nommé conseiller spécial du président Déby de 1990 à 1991 après la chute de l'ancien président tchadien Hissène Habré, puis ambassadeur du Tchad aux États-Unis et haut représentant du Tchad auprès des Nations Unies de 1992 à 1993. Et c'est à son dernier poste qu'il a basculé dans la rébellion où il a été très proche des mouvements politico-militaires qui ont tenté de renverser le régime au pouvoir. Achek Ibn Oumar se rend compte, après 20 ans de lutte armée, que l'exil politique est une anomalie.
La place normale de tout homme politique, c'est être au sein de sa société. Mais les circonstances, parfois, imposent ce genre de situation. Donc, pour moi, c'est juste un retour à la normale.
Aussitôt rentré, les autorités judiciaires lui ont délivré une réquisition aux fins de non-poursuite. Le ministre en charge de la sécurité publique, Ahmad Mohamed Bachir, lance un appel à tous les politico-militaires de déposer les armes.
Que tous les Tchadiens rentrent au bercail pour contribuer au développement de notre pays. Ça ne sert à rien de rester arme en main pour avoir quoi et pour être qui.
L'opposant historique du régime de N'Djamena, Yurongar Ngarledji, dénonce l'application sélective de l'amnistie générale accordée à tous ceux qui se sont rebellés contre les institutions de la République.
Actuellement, il y a des prisonniers qui sont amnistiés par cette ordonnance. Mais pourquoi ils sont restés encore en prison? Des centaines. Où est la sincérité là-dedans? Peut-être que Déby a changé et que les gens avec lesquels il négocie ne seront plus tués. Parce que Déby n'est pas un enfant de cœur. Et il n'oublie pas ce que Achek lui a fait subir, aussi bien sur le front de guerre que sur le plan politique.
Pour le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, par ailleurs avocat au barreau du Tchad, Maître Midaï Kirimbay, l'application sélective de cette amnistie prouve à suffisance que tous les Tchadiens ne sont pas égaux devant la loi.
Achek est rentré, mais je pense aussi à Baba Ladé qui est en prison. Tous les deux, théoriquement, devaient bénéficier de l'amnistie, mais ce qu'il faut retenir, au Tchad, la loi n'est pas valable pour tout le monde. Et c'est cette injustice qui crée des rébellions, qui crée des révoltes. Donc moi, je ne suis pas étonné que M. Achek puisse bénéficier de l'amnistie et que d'autres qui ne sont pas de la bonne race puissent ne pas bénéficier de ces choses-là.
Nous avons tenté de savoir pourquoi les autres détenus politiques ne bénéficient pas de ce pardon légal du chef de l'État, le ministre en charge de la sécurité publique, Ahmad Mohamed Bachir, a déclaré sans embâge que cette question est sans objet. André Kodmadigar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Niger, la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, située à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso, a été au centre des débats au Parlement. Un élu de cette région a interpellé le ministre en charge de la sécurité publique sur la question. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le député Soumana Hassan a dressé pour s'en inquiéter un sombre tableau de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. Meurtre, enlèvement de citoyens, destruction de biens ou encore vol de bétail. C'est à tout cela qu'est venu se greffer depuis quelques semaines une nouvelle forme d'action des groupes armés, le prélèvement de la zakat ou aumône légale auprès des populations, les éleveurs notamment.
Le mode opératoire des bandits consiste à intercepter les troupeaux de bétail en pleine brousse. Ils communiquent aux éleveurs le montant de la zakat à prélever et intime au préfet le versement de cette zakat en espèces et ou en nature. Il va même jusqu'à délivrer des reçus. Le village de Goulbaz, par exemple, a versé 700 000 francs. Le village de Sangara, 700 000 francs et 9 petits ruminants. Bossé-Bangou, 400 000 francs. Kofuno, 600 000 francs. Ziban-Kouartegui, 90 000 francs et 5 vaches. Famalé, 600 000 francs.
La situation inquiète aussi le gouvernement, selon le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé, pour répondre à la question des mesures prises pour y faire face, le déploiement de plusieurs opérations militaires pour juguler le phénomène et même l'insécurité de façon générale dans la région. Mohamed Bazoum.
Certaines des localités qu'il a citées sont des localités sur lesquelles nous n'avons pas eu les mêmes informations, mais pour la plupart, les localités de la région de Lanzourou ont été affectées en effet par ce phénomène d'extorsion qui est justifié par cette idée de la zakat qu'il faut prélever sur les biens des paysans. Relativement à cette situation, nous avons pris des mesures et vous aurez constaté qu'il y a un mieux que plus que cela. Ces agissements ont même cessé. Nous avons déployé des forces nombreuses, importantes, avec un impact conséquent. Mais au même moment, l'état-major tactique basé à Torodi, qui a en charge la situation à la frontière du Burkina, a déployé des forces importantes qui ont investi la forêt, tous les camps qu'il y a dedans, sont en train d'être nettoyés.
Récemment, au cours d'une réunion du G5 Sahel à Niamey, le chef d'état-major de l'armée nigérienne a affirmé que la zone frontalière entre les trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso, est en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et criminels. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La commission électorale au Nigeria publie les listes provisoires en prévision des élections de février 2019, comme le prévoit la loi électorale. Cette publication a notamment pour objectif d'apporter plus d'éclairage sur les électeurs inscrits. Notre correspondant Gilbert Tamba s'est rendu dans un bureau d'inscription.
Être inscrit sur la liste électorale est une condition incontournable pour pouvoir voter aux prochaines élections générales au Nigeria. Il est 10 heures au centre d'enrôlement des électeurs situé dans la zone 3 de la capitale fédérale, Abuja. Youssouf Dantala Mohamed est parmi les premiers à venir chercher son nom sur la liste. Il finit par le trouver et il vient de recevoir sa carte électorale.
J'ai vu mon nom et j'ai pris tous les détails. J'ai demandé à la personne au portail pour me montrer où je pouvais récupérer ma carte électorale. Il m'a dirigé vers un bureau et j'ai attendu l'arrivée du staff. Je me suis présenté avec les détails et ils m'ont remis ma carte. Je pourrai désormais exercer mon droit civique, celui d'aller voter en tant que Nigérian.
Il n'y avait pas d'engouement autour de cette opération puisque beaucoup d'électeurs ne sont pas encore informé. John Abou est aussi venu chercher son nom, un nom qu'il ne trouve pas sur la liste.
Je ne suis pas satisfait d'une telle situation. S'ils doivent faire un travail, ils doivent le faire avec rigueur pour éviter le stress aux gens parce que nous nous sommes inscrits ici, donc je ne vois pas la raison pour laquelle ils vont envoyer ça ailleurs. C'est une grande préoccupation pour moi et je ne suis pas content.
Du côté de la CENI, on annonce que des équipes seront déployées dans tout le pays et cette opération qui doit durer pendant une semaine aboutira à la publication des listes définitives des électeurs. L'affichage des listes d'électeurs permettra aux citoyens de faire des réclamations et des objections concernant des mineurs, des décès, des électeurs étrangers, entre autres, susceptibles de figurer sur le registre des électeurs. Aliou Beloué, le directeur adjoint de la communication de la Commission nationale électorale indépendante, il explique ce qui est prévu pour ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale.
If such individuals happen to be part of those,
si ces gens font partie de ceux dont les noms ont été oubliés par erreur en consolidant la liste, une procédure est mise en place pour eux pour leur permettre de signaler l'absence de leur nom sur la liste. Un formulaire leur sera remis pour le remplir et à un moment opportun, la commission va revoir toutes les procédures.
Selon la commission électorale, plus de 80 millions de Nigériens en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales à travers le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, une journaliste de télévision privée a été transférée à la présidence, à la prison de New Bell, à Douala. Il est reproché à Mimi Mefo d'avoir publié une information attribuant à l'armée camerounaise la mort d'un missionnaire américain tué la semaine dernière dans la région anglophone du Nord-Ouest. Au micro de Raïssa Girondin, Maître Alice Com, assurant sa défense et elle estime que ce qu'on lui reproche ne révèle pas du tribunal militaire.
Mimi, journaliste à la télévision Equinox, devait répondre à une convocation de la Légion de gendarmerie de Douala dans le quartier Bonanjo. Nous étions 8 avocats qui l'avons accompagné à cette convocation.
Qu'est-ce qui lui est reproché?
Et là, qu'est-ce qui lui notifie comme infraction? Il lui dit, voilà, vous avez commis l'infraction de propagation de fausses nouvelles et de cybercriminalité parce que nous avons fait une capture d'écran, votre page Facebook, où il apparaît que vous disiez dans un de vos posts que c'est une balle de l'armée camerounaise qui a tué le missionnaire américain.
D'où provenait la source de l'information de Mimi Mefo?
Je crois que c'était une agence CNA.
Cameroun News Agency.
C'est ça.
Donc elle a repris cette information en ligne, qu'elle a ensuite relayée. Une fois relayée, ils ont fait une capture d'écran.
C'est à partir de là qu'on la convoque.
On l'a accusée donc de faire de la cybercriminalité. Donc comment on peut vraiment comprendre ces chefs d'inculpation?
Moi, je ne peux pas les comprendre parce que je suis un juriste. Quand j'analyse ça par rapport à la loi, même sur la cybercriminalité, que ce soit sur la propagation de fausses nouvelles, encore moins la sûreté de l'État, je ne vois aucun lien qui puisse conduire à une infraction, encore moins à une condamnation. Parce que, en ce qui concerne la propagation de fausses nouvelles, le libellé du texte vous donne quand même la possibilité de dire que vous aviez de bonnes raisons de croire à la véracité des faits, et c'est pour ça que vous avez partagé ça. Que serait Internet si on ne pouvait pas partager ces informations?
Il y a plusieurs journalistes qui ont été arrêtés. Est-ce que ces journalistes-là ont été arrêtés pour les mêmes chefs d'inculpation ou c'est autre chose?
Non, il y a des journalistes, c'est pour autre chose. On leur reprochera peut-être pas la cybercriminalité. On va leur reprocher d'avoir propagé des nouvelles parce que ce qu'ils ont dit n'était pas de nature à plaire à l'armée.
Voilà. Comment vous prévoyez maintenant la suite de l'affaire Mimi Mefo? Quelle est la suite de la procédure?
La procédure n'est pas respectée. Les lois ne sont pas respectées et la partie en face a l'air de pouvoir se comporter comme au-dessus des lois. Parce que si on suit les lois de la République, Mimi ne doit jamais se retrouver devant un tribunal militaire pour ces faits-là. Parce que, un, il est interdit aux tribunaux militaires de juger les civils. C'est interdit. Ce n'est pas de leur compétence. Ça ne se retrouve même pas dans le texte, les dispositions du code de justice militaire. Donc déjà ça, c'est extrêmement important et ça donne à tout le reste du procès un goût amer d'arbitraire et d'injustice et d'illégalité, de violation des droits. Nous pensons bien qu'au cours d'un procès juste et équitable, on va démontrer son innocence.
Maître Alice Com, jointe à Douala.
Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique.
30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions.
Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle. Une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine.
De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres,
nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel.
Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin et Firmin Koyaweda. À la console, Jo Gill et Kabadou à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme en notre compagnie.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.